Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivant, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu.
Nous fêtions hier, 25 janvier, la conversion de saint Paul. Et chaque année, cette fête de la conversion de saint Paul clôt la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous savez combien cette prière pour l'unité des chrétiens est importante, parce que rien n'est plus scandaleux pour le monde, rien n'est plus contraire à l'esprit du Christ que la division des chrétiens. La division des chrétiens, nous en sommes tous responsables, comme nous sommes tous responsables de l'unité de l'Église, l'unité de l'Église dans sa plénitude. Et je rejoins ce passage de saint Paul aux Corinthiens que nous avons lu, où il prend une comparaison que tout le monde peut comprendre facilement, la comparaison du corps. La main ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », l'œil ne peut pas dire aux oreilles « je n'ai pas besoin de vous ». Nous sommes tous liés les uns aux autres, et cette expression est très forte dans la bouche de saint Paul. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons reçu des charismes différents, chacun sa mission, chacun sa place. Et le corps tout entier, c'est le Christ. C'est le Christ qui est le corps indivisible. Nous sommes tous membres de ce corps. Nous l'avons chanté dans notre chant d'entrée. Nous sommes membres d'un seul corps qui est le Christ. À nous de demeurer membres de ce corps. Le drame, c'est quand un membre n'est plus irrigué par le sang, il meurt et on est obligé d'amputer. Cette unité de l'Église, elle était déjà une question pour le peuple hébreu, pour le peuple d'Israël. La première lecture que nous avons entendue tous ensemble, la lecture de ce livre d'Esdras, c'est magnifique. Les circonstances sont assez importantes à comprendre. On était rentré de la déportation à Babylone, et alors qu'on avait attendu ce retour à Jérusalem et en Judée, on l'avait attendu pendant 70 ans pour certains, le retour ne s'était pas passé aussi facilement qu'on avait espéré. Pourquoi ? Parce que sur place, la foi avait quasiment disparu, le pays s'était beaucoup paganisé, ceux qui étaient restés, mais aussi ceux qui étaient venus à la place, peupler ce pays. Beaucoup de juifs avaient épousé des païennes, et petit à petit, la foi s'était diluée. On avait beaucoup de peine à retrouver cette force du peuple, cette unité du peuple, entre ceux qui étaient les nouveaux habitants du pays, entre ceux qui revenaient, qui avaient gardé la foi, ceux qui revenaient mais qui avaient perdu la foi. Bref, tout ça était très dispersé. Et Esdras, avec le prophète Néhémie, ont l'idée de faire une grande célébration, une immense liturgie, pour célébrer la parole de Dieu. On a ressorti les livres, on a fait une estrade tout exprès pour que tout le monde puisse voir. Et puis, du lever du jour jusqu'à midi, on a lu le livre. Mais quand on se plaint de temps en temps que la messe est un peu longue, elle dure un peu plus d'une heure, on est encore loin du compte de ce que faisaient les gens à ce moment-là. Vous voyez, du lever du soleil jusqu'à midi. Vous m'entendrez peut-être jusqu'à la fin de l'après-midi. Et on célèbre la parole de Dieu. On lit des passages qu'on traduit parce qu'on ne parlait plus la même langue. On parlait désormais l'araméen, non plus l'hébreu, alors que le texte était écrit en hébreu. On traduisait et puis on donnait le sens et on continuait ainsi. Et cette parole de Dieu était capable de faire cette unité. D'ailleurs, tout le monde se prosterne. Gloire à Dieu, amen, amen, disent le peuple. Et alors, Esdras et Néhémie disent... Ce jour est un jour de fête. Ce jour est un jour de fête, un jour de, non pas un jour de jeûne, surtout pas un jour de tristesse, un jour de fête, et pour faire la fête, vous allez faire un bon déjeuner, un bon repas, un bon festin. Mais on était encore loin d'imaginer ce que l'Évangile va nous apprendre. La parole était encore quelque chose qu'on lisait, la parole était quelque chose encore qu'on apprenait. Magnifique cette parole. Le psaume, il faudrait le lire tout entier. Il est superbe. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage les simples. Oui, tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. C'est beau ça, il clarifie le regard. Toute la foule regardait ceux qui proclamaient la parole de Dieu. Un peu comme à Nazareth, aujourd'hui dans la synagogue, on regarde Jésus, tous avaient les yeux fixés sur Jésus. Jésus revient de son baptême dans le Jourdain, il a passé 40 jours dans le désert, et puis il a commencé à faire des miracles. Il avait une réputation qui se propageait beaucoup, il avait même une très bonne réputation. Sa renommée se répandait dans toute la région. Il était habité par la puissance de l'Esprit. Alors il revient en Galilée, chez lui à Nazareth, où il avait été élevé. Et puis comme tous les samedis, on va à l'office, à la synagogue. Jésus est un bon juif, il fait comme tout le monde. Ça date de très très loin, c'est-à-dire la parole de Dieu qu'on avait relue très officiellement et très, très avec grande fête au moment d'Esdras. On avait continué à lire cette parole de Dieu tous les sabbats. Et puis on avait pris l'habitude de la lire, de la célébrer. Et donc Jésus se lève et va faire la lecture. Tout le monde pouvait faire la lecture à la synagogue. Jésus fait cette lecture et il tombe sur cette lecture du jour qui est dans le livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Une année favorable, il faudrait traduire une année de jubilé. L'année de jubilé, c'était une année qui avait lieu tous les 7 ans, tous les 7 fois 7 années, c'est-à-dire tous les 7 ans et puis après tous les 50 ans. Une année où toutes les dettes étaient remises, une année où on remettait tous les compteurs à zéro, tous les esclaves étaient libérés, retrouvaient leur liberté. Les terres qu'on avait achetées, on les redonnait à ceux qui étaient les propriétaires premiers. On remettait tout à zéro. En réalité, on trichait un petit peu et les années de jubilé n'étaient jamais totalement jubilaires. Et Jésus annonce cette chose inouïe, ce que vous avez entendu là, c'est aujourd'hui que s'accomplit ce passage. Tous avaient les yeux fixés sur lui. Il est en train de dire une chose inouïe qui se tient en deux parties. Premièrement, il est cette parole vivante parce qu'il s'attribue à lui cette réalité, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a consacré par l'onction. Mais qui donc est ce Jésus que nous connaissons à Nazareth, qui a grandi au milieu de nous, nous avons joué aux billes avec lui, nous avons été dans les villages voisins à côté avec lui. Qui donc est ce fils de charpentier qui tout d'un coup se permet dans la synagogue de dire quelque chose de totalement blasphématoire? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Mais le Seigneur a consacré par l'onction. Seul le Messie qu'on attendait serait consacré par l'onction, cette onction royale. Ce texte d'Isaïe était réservé à ce Messie qu'on attendait. Et c'était un texte qui annonçait ce qui se passerait le jour où enfin le Messie royal désigné par le Seigneur se montrerait pour rétablir le royaume d'Israël et dans sa plénitude. Et voilà que Jésus, petit fils de charpentier, homme très simple, homme très humble, homme du peuple, se présente comme celui qui est consacré par l'onction. Donc il se présente comme le Messie. Il ose se présenter dès le début de son ministère, chez lui à Nazareth, il se présente comme le Messie. Et ce faisant, il annonce cette année jubilaire, il annonce cette année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est aujourd'hui que tout cela s'accomplit. Autrement dit, cette parole que vous avez entendue, c'est une parole vivante. « Je suis, dit Jésus, cette parole vivante. » C'est notre foi aujourd'hui. Nous croyons que la parole n'est pas seulement quelque chose qu'on entend. Cette parole nous a été donnée à voir. Nous contemplons cette parole dans le visage du Christ. « Et qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. » Autrement dit, en écoutant cette parole, il ne suffit pas de l'entendre, mais il faut l'écouter pour la faire pénétrer au-dedans de nous. Et cette parole, ou bien nous la lisons comme une parole quelconque, même si elle était magnifique, nous la recevons, nous autres, si nous sommes chrétiens, si nous avons été plongés dans l'Esprit, comme disait saint Paul aux Corinthiens, si nous avons tous été baptisés, nous la recevons comme celui qui est le cœur et l'origine de notre vie, celui qui est la source de tout amour, celui qui est la source de notre liberté, celui qui est la source de toute chose, et celui qui est capable de faire marcher les boiteux, de faire voir les aveugles, de rendre l'audition aux sourds. Tous avaient les yeux fixés sur lui. On verra ça dimanche prochain. En réalité, à Nazareth, on n'a pas beaucoup, on a très mal reçu Jésus. Aussi bien on avait acclamé la parole de Dieu au moment d'Esdras, aussi bien à Nazareth, quand Jésus va dire ce qu'il dit, tous grincer des dents, ce sera l'évangile de dimanche prochain. Mais la question nous est déjà posée aujourd'hui. Est-ce que nous avons les yeux fixés sur Jésus? Et les yeux fixés sur Jésus, ou bien c'est pour croire parce que nous voyons, ou bien c'est pour refuser de croire. Et il y va de l'unité de l'Église. J'en reviens à l'unité de Dieu. J'en reviens à l'unité du corps, un seul corps. Si tu es un membre vivant du Christ, alors tu vois pour croire. C'est-à-dire, tu as les yeux fixés sur lui et tu crois que celui-là est le Fils de Dieu et que l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit, l'a ressuscité d'entre les morts. Mais peut-être regardes-tu Jésus, peut-être regardes-tu cette parole comme Ève a regardé le fruit pour voir qu'il était beau à voir et désirable à manger. Son regard était devenu un regard d'envie au lieu d'être un regard d'adoration. Comment regardons-nous l'Eucharistie dans un instant qui nous sera présenté? Le corps de Christ, le sang du Christ. Est-ce que nous serons capables de dire Amen en choisissant de croire qu'une année jubilaire nous est donnée pour remettre les compteurs à zéro, pour que tous nos péchés soient pardonnés réellement, mais que nous remettions aussi les dettes de ceux qui nous doivent, comme le Seigneur nous a remis à nous? Ou bien est-ce qu'au contraire, nous sommes indifférents, voire hostiles, parce que les autres ne nous plaisent pas, ou ne ne sont pas comme nous aimerions qu'ils soient. Posons-nous cette question dans le secret de nos cœurs et demandons une fois de plus à la Vierge Marie, Mère de l'unité, Mère de l'Église, Mère, parce qu'elle a laissé la parole prendre chair en elle, demandons-lui à la Vierge Marie de préserver l'unité de l'Église, de nous y conduire et de nous apprendre à garder la parole pour l'adorer. Amen.